Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, la quatrième depuis la création de cette émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Écho d'ici, Écho d'ailleurs est aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons tous les mois, au début du mois, une personnalité importante de la vie économique africaine. Pour cette rentrée, le grand invité est à la fois un chef d'entreprise, un homme d'affaires, un syndicaliste, excusez du peu, et il est citoyen de la République démocratique du Congo, qu'on appelle plus familièrement la RDC ou la RD Congo. Bonjour Albert Yuma Mulumbi.
Bonjour Monsieur Boris, Albert content Yuma, d'être avec vous.
Content que vous soyez avec nous. Albert Yuma Mulumbi, je disais en présentant cette émission il y a quelques secondes que vous étiez chef d'entreprise parce que vous présidez le conseil d'administration de Gécamines, la société minière nationale de RDC. Vous êtes homme d'affaires privé parce que vous avez vos investissements personnels, en particulier dans l'immobilier. Et enfin, vous êtes syndicaliste parce que vous dirigez la FEC, la Fédération des entrepreneurs congolais. Mais vous êtes aussi président du comité d'audit de la Banque centrale du Congo. En France, on dirait que vous êtes un insupportable cumulard. Il n'y a personne d'autre de disponible en RDC ?
Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes disponibles et compétentes, mais les hasards d'une carrière professionnelle ont fait que, voilà, je suis à ces différentes fonctions. Parfois aussi, des choix qui ont été faits sur ma personne, qui m'honorent, et j'essaie de les assumer au mieux. Vous avez dit que je suis syndicaliste, ça fera plaisir effectivement à beaucoup de syndicalistes, mais je suis d'abord un entrepreneur et depuis 35 ans, je suis dans le monde des affaires.
Mais qu'est-ce qui vous importe le plus, la Fédération des entrepreneurs, la Gécamines ou vos affaires privées, votre portefeuille personnel?
Mais écoutez, je pense que mes affaires privées m'ont déjà mis un peu à l'aise à titre personnel et donc je peux me consacrer davantage aux préoccupations des opérateurs privés de la RDC et au mandat important que le chef de l'État m'a confié pour redresser la Gécamines.
Alors, ces affaires personnelles qui vous ont mis à l'aise, comme vous dites, quelles sont-elles en deux mots ?
Écoutez, je suis dans le secteur textile, dans le secteur immobilier et dans le secteur de la distribution alimentaire et dans des placements aussi.
Alors au cours de cette émission avec vous, Albert Yuma Mulumbi, nous parlerons évidemment d'activités minières en RDC, mais plus largement de la situation de ce vaste pays dont vous êtes un des principaux acteurs économiques. Nous entendrons un extrait de l'interview que le Premier ministre de RDC, Mapon Matata Ponyo, nous avait accordé début juin. Nous avons aussi rendez-vous avec Claire Fage, la spécialiste des matières premières de RFI. Et une première question de Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Monsieur Yuma, bonjour. Le gouvernement congolais a revu à la baisse une nouvelle fois le taux de croissance de l'économie nationale. On est en dessous de 5% maintenant, autour de 4,5%. Quel regard vous portez sur l'évolution de la situation économique de votre pays et de la gravité de la situation économique ?
Effectivement, le taux de croissance vient d'être révisé à exactement 4,3%. C'est ça les dernières projections. La situation économique de la RDC est difficile. Elle est difficile, il ne faut pas s'en cacher. Les opérateurs souffrent, la population souffre. Tout le monde sait et d'abord dit que c'est à cause de la baisse des prix des matières premières. C'est vrai. Bon, on a trop longtemps surfé sur la vague des prix des matières premières. Et peut-être la faiblesse de l'économie est liée aussi à ce qu'il n'y a pas eu, contrairement à ce que la FEC avait toujours proposé, de vraies politiques économiques qui prennent en charge l'ensemble des préoccupations du monde des affaires.
Dans les entreprises privées au capital duquel vous êtes, est-ce que cette souffrance économique se ressent ? Est-ce que les entreprises que vous dirigez, dont vous êtes propriétaire en toute ou partie, subissent cette crise économique ?
Absolument, absolument. Aujourd'hui, en moyenne, d'après les observations de la FEC, l'activité de tout le monde a baissé entre 25 et 30%. Et dans le secteur, par exemple, de la distribution de produits alimentaires, qui pourtant quelque chose de base, il y a un vrai ralentissement. Donc c'est bien la preuve que la situation de l'État a un impact, bien sûr, sur la vie des gens, mais que la situation économique générale, où les gens, effectivement, freinent un peu leurs investissements, affectent tout le monde.
Pourtant, le président de la Banque africaine de développement vient de déclarer que cette baisse du cours des matières premières pouvait être une opportunité pour les économies africaines. Vous en pensez quoi ?
Je l'ai dit il y a quelques mois à Lubumbashi, lors des journées minières, qu'effectivement, on ne va pas continuer à se lamenter parce que les prix des matières premières ont baissé. Et jamais je me rappeler à l'époque que quand la Gécamine était dans son âge d'or, elle vendait son cuivre à moins de $3,000 la tonne et contribuait à 70% au recettes de l'État. C'est une occasion, effectivement, un, de se réorienter vers d'autres secteurs, de plus de valeur ajoutée locale de transformation, mais c'est aussi une occasion pour les entreprises minières de réorganiser leur mode d'exploitation et de gestion pour être beaucoup plus performantes et innovantes. Et à titre d'exemple pour la Gécamine, on va arrêter d'avoir ce circuit historique d'avoir des mines à 100 km, des concentrateurs à 200 km et des usines métallurgiques ailleurs. On concentre tout sur un site unique, on modernise, on rend plus efficace la gestion et on peut vivre, je pense, avec un prix du cuivre qui aujourd'hui reste à ce qu'il était historiquement, au-dessus.
Alors justement, on va revenir sur le prix du cuivre avec Claire Fage, qui est dans ce studio. La cause principale, disions-nous, de la forte baisse de la croissance congolaise, c'est la chute de ces cours du cuivre. Écoutez ce qu'en dit Claire Fage, la spécialiste des matières premières sur RFI.
Oui, dans le cuivre, dans ce complexe des métaux, on peut dire que le cuivre s'en sort mal parce qu'on est en surproduction de métal rouge au plus mauvais moment. La Chine, soit la moitié de la consommation de cuivre, ralentit le rythme de ses importations. Il y a eu un petit rebond au printemps. Pékin avait relancé quelques grands travaux demandeurs de câbles en cuivre, mais cette embellie n'a pas duré. Et aujourd'hui, on est face à une avalanche de production minière qui ne trouve pas preneur. C'est devenu très difficile d'ajuster l'offre à la demande dans le cuivre. Dans le nickel ou le zinc, on peut lancer et fermer une mine rapidement. Dans le cuivre, comme on a épuisé les gisements à forte teneur, on est obligé de brasser beaucoup plus de minerais qu'autrefois pour avoir la même quantité de métal rouge. Ça veut dire des usines de concentration du minerai, des projets très coûteux et très longs à développer. Donc les projets décidés il y a 4 ou 5 ans au pic des prix du cuivre commencent à peine à alimenter le marché et ce sont des monstres. Las Bambas au Pérou, Sentinelle en Zambie, l'élargissement de Grasberg en Indonésie, Ferro Verde au Pérou, Escondida au Chili. Cet excédent de cuivre pourrait encore durer 2 ans pour les plus optimistes, mais jusqu'à 4 ans selon les analystes de Goldman Sachs.
Merci Claire Fage. Claire Fage qu'on retrouve tous les jours dans sa chronique des matières premières sur RFI à 7h26 et 8h52 heure de Paris. Votre réaction à cette analyse de Claire Fage, Albert Yuma Moulimbi ?
Oui, je pense qu'on a encore 2 ans de souffrance. Et c'est vrai, comme elle vient de le dire, que tout le monde avait investi en espérant assez naïvement que le cours allait continuer à monter et en espérant qu'effectivement la Chine allait continuer à augmenter sa demande, en pensant que les pays de l'OCDE s'étaient définitivement redressés, ce qui n'est pas le cas, et en pensant que les BRICS n'allaient pas s'écrouler comme c'est le cas aujourd'hui. Donc cette situation, moi, ne me surprend pas. Mais comme je viens de le dire, c'est une opportunité. Et en termes de minerais, la RDC a encore la chance d'avoir les mines qui ont des très belles teneurs. Donc par rapport aux pays de l'Amérique latine, nous sommes dans une situation comparative beaucoup meilleure et on pourra, à mon avis, en se réorganisant, mieux tirer notre épingle du jeu et je suis moins pessimiste à cause de la hauteur ou du niveau des prix.
Frédéric Maury.
Mais Monsieur Yuma, là, on parle beaucoup en effet du cuivre parce que c'est ce qui finalement a tiré la croissance congolaise pendant les dernières années et que c'est ça aujourd'hui aussi qui fait que la croissance congolaise baisse beaucoup. Mais finalement, la population locale, elle, est-ce qu'elle a vraiment profité de ces mines qui ont certes suscité sans doute des ressources gouvernementales importantes, mais où la redistribution, elle n'existe pas dans ce secteur-là.
Je suis tout à fait d'accord et depuis toujours, vous avez eu l'occasion de suivre mes déclarations. J'ai toujours insisté que les politiques économiques de notre pays ne devaient pas se focaliser sur le secteur des industries extractives. Il fallait pousser à une réindustrialisation en passant par l'agriculture, l'agro-industrie et surtout soutenir les petites et moyennes entreprises. Et effectivement, quand vous dites que l'augmentation de la production de cuivre en RDC et sans doute les revenus un peu pour l'État n'ont pas eu de retombées significatives parce que on n'a pas tiré dans la chaîne des valeurs les petites et moyennes entreprises locales comme le faisait la Gécamine en son temps. Donc il n'y a pas eu redistribution et donc, il faut le reconnaître, la population n'a pas tiré toutes les dividendes.
Ça veut dire que le gouvernement a raté une occasion historique. Celui-ci, comme d'autres en Afrique d'ailleurs, a raté une occasion historique de justement de développer l'économie, développer l'agriculture, développer les PME. Et qu'aujourd'hui, c'est finalement difficile de le faire dans une situation comme elle est aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il faut être conscient de ça. ce n'est pas simplement le gouvernement congolais, je profite pour élargir le débat. Le problème de la gestion des ressources naturelles en Afrique est un problème important. Il faut que les élites africaines s'approprient effectivement la gestion de ces ressources de sorte à faire qu'au final, il y ait des vraies retombées. Au moment des crises des années 2000, la plupart de nos pays ont fait venir des partenaires extérieurs pour développer leurs industries minières en espérant que, en donnant à ceux qui sont en parenté spécialistes, il y aurait des retombées, dividendes pour les entreprises et pour les États. Mais malheureusement, et c'est le cas de la RDC et de la Gécamines, après 10 à 15 ans d'exploitation, les dividendes ne sont pas venus pour l'entreprise minière minoritaire et pour les populations parce qu'il fallait rembourser des investissements monstrueux, comme a dit votre collègue, transférer des revenus à l'extérieur pour justifier, disons, aux actionnaires les intérêts de continuer à travailler. À un moment donné, il faudra s'arrêter pour que, quand on vous parle en Europe qu'il faut libéraliser l'économie, mais on prend des mesures restrictives en Europe et en Amérique, chez nous aussi, il faudra s'asseoir pour que le secteur minier, on dit, les mines, le cuivre ne va plus repousser quand on l'aura extrait. Il vaut mieux, le plus vite possible, réorienter nos activités, les revenus du secteur minier dont on a besoin, vers les secteurs de transformation, de valeur ajoutée locale, pour qu'effectivement les populations en tirent profit. Ce n'est pas le cas seulement de la RDC, c'est de l'ensemble de l'Afrique.
Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas en RDC? Vous êtes un homme influent, très influent.
Oh, je vous remercie de penser ça. Je suis un opérateur économique, je suis la voix du secteur privé, et je pense que vous le savez, je ne cesse de faire des propositions. Je suis heureux que dernièrement, à la suite de cette crise, le président de la République a incité le gouvernement à s'asseoir avec nous pour prendre ce qu'on appelle les mesures d'urgence pour la résilience de l'économie. Et je pense que dans ces mesures, qui sont 28 au total, nous allons avoir maintenant des choses beaucoup plus concrètes sur le terrain où on s'occupe de la valeur ajoutée locale et des retombées sociales de tous les projets d'investissement dans des secteurs autres que les industries extractives.
Mais malgré le boom du secteur minier depuis une dizaine d'années, moi je regardais l'évolution du budget de l'État. Alors ça s'est un peu amélioré, il a un peu grossi, mais il reste dérisoire. J'ai regardé, il est inférieur à celui de la seule ville de Paris pour l'ensemble de la RD Congo. Comment est-ce que, honnêtement, un État peut arriver à investir avec si peu d'argent, surtout vu les besoins qui sont RD Congo? Première question. Et deuxième question, est-ce que dans les opérateurs miniers internationaux, ceux qui exploitent les mines congolaises, est-ce que finalement il n'y a pas aussi de l'exil? Enfin, on sort les bénéfices et en fait, on laisse peu d'argent sur place.
Je l'ai dit et je le redis. D'ailleurs, pour le moment, la Gécamines, en tant que partenaire minoritaire d'une vingtaine de projets miniers, a lancé des audits sur ces entreprises minières pour voir effectivement la gestion des flux financiers. Nous ne sommes pas, nous, contents de la gestion des flux financiers. Et a fortiori, l'État qui avait donné un code minier très avantageux, et j'ouvre la parenthèse, je la referme, ce n'est pas le moment de toucher à ce code minier dans l'environnement actuel, mais le moment venu, il faudra se rasseoir autour de ce code minier.
Mais Pourquoi?
Parce que je pense que les entreprises qui en ont bénéficié ont eu le temps, à mon avis, de s'ajuster et d'être bénéficiaires. Il est temps maintenant qu'on réexamine plus d'apports pour l'industrie locale, les PME locales et l'État et les populations au final.
Dans l'autre grand enjeu pour votre pays, qui a été dévasté par la guerre dans les années 90, c'est le climat des affaires. Et pour votre société Gécamines aussi, c'est un grand enjeu. La mauvaise gouvernance, l'affairisme sont des questions importantes. Voyez-vous une amélioration de ce côté-là, ou au contraire, la situation s'aggrave-t-elle avec la dégradation de l'économie que vous décriviez au début de l'émission?
Il faut être honnête et reconnaître que le gouvernement, ces dernières années, a fait des efforts pour améliorer le climat des affaires et l'environnement dans lequel les opérateurs économiques travaillent.
Le gouvernement de Mapon Matata Ponyo.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces actions d'amélioration du climat des affaires ont commencé en 2001, à l'arrivée du président Kabila, qui avait décidé de libéraliser l'économie et de commencer des réformes qui avaient déjà été appliquées à l'époque et qui avaient permis d'atteindre le point d'achèvement. C'est arrivé il y a bien longtemps, ça n'a pas commencé il y a 4 ans. Donc il faut être clair là-dessus. Donc ce gouvernement et les actions qui ont commencé en 2001 ont porté des fruits et il y a eu des améliorations. Mais les faiblesses restent dans le secteur juridique et judiciaire, dans le secteur administratif. Il y a des faiblesses qui restent, il y a des tracasseries, il y a une multiplicité des taxes sur lesquelles on doit encore travailler pour rassurer ceux qui sont déjà là et encourager ceux qui veulent venir en RDC.
Qu'est-ce que vous appelez des faiblesses ?
L'administration est faible, mal formée, mal rémunérée, et donc effectivement, ça entraîne beaucoup de tracasseries, ce sont des faiblesses qu'il faut corriger.
Mais les tracasseries, c'est quoi ? C'est la corruption ? C'est des bakchiches qu'on demande ? C'est quoi ?
Les tracasseries, c'est 150 convocations par-ci, par-là, des contestations de vos comptes par des services non habilités, voilà.
Frédéric Maury.
L'autre enjeu actuel, c'est l'incertitude politique. On parlait tout à l'heure de la situation économique, mais cette situation politique actuelle, est-ce qu'elle n'est pas aussi extrêmement néfaste à l'économie, aux investissements étrangers ou même aux investissements locaux ?
De façon générale, de par le monde entier, l'incertitude politique n'est jamais bonne pour les affaires. Donc ce n'est pas spécifique à la RDC. Et donc il est clair qu'il est bon pour les opérateurs économiques locaux et étrangers qu'effectivement, très rapidement, nous allions vers un apaisement politique et que le dialogue politique qui a commencé aboutisse à un consensus national pour permettre aux opérateurs économiques de travailler en toute sérénité.
Et pour vous, c'est important que la date de l'élection soit respectée ?
Écoutez, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait un climat des affaires stable, une situation politique qui rassure tout le monde, et cela ne peut se faire qu'à travers un consensus de toutes les forces publiques, qu'il s'agisse des forces politiques ou de la société civile. Le débat sur la date des élections ne me concerne pas. Ce qui me concerne, moi...
En tant que citoyen, vous n'avez pas d'opinion ?
En tant que citoyen, je me souviens qu'en 1991 à 93, il y avait des pillages suite à l'insécurité politique qui ont détruit le tissu économique. On les paye jusqu'à aujourd'hui. En janvier 2015, il y a eu les mêmes événements. Ceux qui attisent ce genre d'activité détruisent le tissu économique. Ça ne sert personne et surtout pas les populations.
On vous dit proche du président Kabila. Est-ce qu'il a à l'esprit la dimension économique des affaires du pays quand il fait régner ce flou sur la date des élections ?
En tant que président de la FEC, je suis le partenaire naturel et obligé du pouvoir. D'ailleurs, tout comme ici, le MEDEF est le partenaire du gouvernement. Donc, ce n'est pas une nouveauté.
Le mot partenariat ne serait probablement pas avalisé par toutes les parties que vous citez.
Non. Moi, partenariat, j'entends que nous sommes obligés de parler, d'échanger nos points de vue et parfois de constater nos divergences. C'est aussi du partenariat.
Non, mais on vous considère souvent comme un conseiller du président Kabila.
Vous m'informez. Moi, j'ai été nommé par le président Kabila pour redresser une entreprise publique, parce que il a pensé que mon expérience du secteur privé pouvait être utile. Je discute avec tout le monde et je pense que j'ai effectivement l'opportunité d'échanger avec le président de la République, donc, qui est très, très, très conscient de la priorité de l'économie et de l'importance d'avoir un secteur privé fort en République démocratique du Congo.
Mais est-ce qu'il a à l'esprit la dimension économique de la situation actuelle et les conséquences du flou sur la date des élections ?
Il est conscient de l'importance de la situation économique. Je crois que je viens de vous dire que c'est lui qui a incité le gouvernement à se réunir avec nous pour prendre 28 mesures d'urgence pour la résilience et la relance de l'économie. C'est son initiative, donc il est très conscient.
Elles n'ont pas été appliquées, ces mesures.
Ces mesures sont en cours d'application. Elles sont difficiles à appliquer parce que je crois que ce n'est pas des mesures qui peuvent avoir un impact à court terme. Donc il faut réfléchir, et c'est ce que la FEC a proposé, à des choses beaucoup plus concrètes. Mais c'est parce que lui, il a senti qu'il était important qu'on mette l'accent sur l'économie et qu'on ne mette pas la FEC à côté, et qu'il a demandé au gouvernement de nous associer. Donc il est très conscient de l'impact de la situation économique, du rôle de l'économie dans la stabilité politique et la paix sociale. Ça, j'en suis tout à fait sûr.
Mais on ne l'entend jamais parler économie. On entend le Premier ministre, Matata Ponyo, mais lui, jamais.
Mais écoutez, vous connaissez la constitution de la République démocratique du Congo. Le président, il est le chef de l'État. Il a nommé un Premier ministre qui est chef du gouvernement et qui doit donc, lui, s'exprimer sur la politique économique. Voilà. Je pense que le Premier ministre consulte et informe le chef de l'État. Ce n'est pas au chef de l'État à aller parler à la place du chef du gouvernement, dont c'est la mission.
Eh bien, c'est la fin de la première partie de cette émission. Albert Yuma Moulimbi, nous poursuivons cette rencontre autour de l'économie de la RDC dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous sommes aujourd'hui dans notre format grand invité de l'économie avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Nous recevons Albert Yuma Mulimbi, le patron des patrons de la République démocratique du Congo, la RDC. Mais Albert Yuma est aussi le PDG de la société Gécamines, la générale des carrières et des mines, société minière qui appartient à l'État congolais. Et nous le disions tout à l'heure, Albert Yuma, vous présidez cette compagnie de la Générale des Carrières et des Mines depuis 2010. Or, vous venez d'annoncer un plan de relance ambitieux. Quels sont les termes de ce plan ?
C'est un plan de production. Parce que vous vous souvenez, quand on s'était vu il y a 3 ans, on avait parlé du plan stratégique de développement qui était consécutif à un diagnostic dramatique de la situation dont on avait hérité. Une société avec des équipements obsolètes, 12 000 travailleurs, un passif de 1,7 milliard de dollars, mais qui avait l'espoir que, venant d'être transformé en entreprise commerciale, les engagements de l'État d'apurer son passif et de nettoyer ses dettes sociales devaient lui donner un souffle nouveau pour qu'on mette en place un plan de redressement. L'État n'a pas pu, effectivement, apurer le passif, ni social, ni les dettes croisées entre les entreprises du portefeuille. Et donc, on s'est retrouvé seul avec ce 1,7 milliard de passifs, ces 12 000 travailleurs qu'on ne pouvait pas, compte tenu de l'environnement politique et social, mettre à la porte, à trouver des solutions, nous-mêmes, par des autofinancements, pour nous redresser. On a fait des choses, parce que le premier constat, c'était de dire que cette entreprise, qui n'avait plus fait d'exploration, n'avait pas de réserve suffisante pour se projeter dans l'avenir, puisque, vous le savez, toutes les belles concessions minières avaient été cédées dans des partenariats où on était minoritaire. Si on voulait retrouver un rôle en tant qu'entreprise, nous-mêmes, il fallait qu'on récupère un actif important, qu'on se lance en prospection. Donc ce qu'on a fait pendant ces années d'abord, c'est de récupérer 2 ou 3 actifs importants, dont un aujourd'hui des IWA, on en parlera plus tard, fera l'objet d'un partenariat tout à fait nouveau. Nous avons aussi essayer de colmater là où il fallait. Sur des vieux équipements, on a fait de la réhabilitation. On a investi près de 140 millions dans des réhabilitations. Et on s'est lancé dans ce qu'on pouvait faire à moindre coût, des transformations par des techniques qu'on appelle les HMS, des modules de production concentrateurs, et la récupération, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, des rejets qu'à l'époque on ne traitait pas des minerais pauvres, mais qu'on pouvait récupérer dans de nouvelles technologies. Voilà ce qu'on a fait.
Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui.
Donc maintenant, il y a un nouveau plan.
Maintenant, il y a un plan de production qui est basé sur le fait que on a récupéré des actifs importants, on a baissé de 200 millions à peu près et nos dettes, mais
qui est de combien, rappelez-le maintenant ?
Qui est maintenant autour de 1,5 milliard, et on a
pour
réduit
un chiffre d'affaires de combien ?
Le chiffre d'affaires aujourd'hui n'est pas très significatif parce que nous tournons autour des 140 millions. Mais le drame que nous avons, c'est que nous avons toujours mensuellement une paye de près de 9 millions de dollars. Vous vous rendez compte ce que ça prend déjà pratiquement tout le chiffre d'affaires. Et donc, le plan actuel a 2 phases. La réduction des effectifs en accord total avec les délégués syndicaux.
Pour les passer de combien à combien ?
On devrait tourner autour de 7 000 maintenant.
De 12 000 à 7 000 ?
Dans les 12 000, on avait déjà commencé à faire des efforts. Donc on aura directement 7 000 et à peu près 1 millier qu'on appelle des externes qui sont en sous-traitance. Donc nous devons un plan social qui cette année va plus ou moins faire partir avant octobre, 2500 personnes, en accord avec les délégués, la délégation syndicale. Ça, c'est important. Et nous avons décidé de fermer toutes les filières non rentables, obsolètes et même dangereuses. Ça a été difficile de discuter avec le personnel et les syndicats, mais nous sommes arrivés à leur expliquer qu'il valait mieux aujourd'hui arrêter les unités, nous concentrer sur des filières qui sont beaucoup plus rentables en fonction des prix actuels du cuivre. Et cette décision, contrairement à ce qu'on avait fait avant, nous les avons prises grâce à des études faites par des cabinets extérieurs auxquels on avait commandé des analyses.
Qui ça ?
2 cabinets sud-africains et australiens.
Qui s'appellent ?
Je crois que ça n'a pas d'importance, c'est des cabinets de taille.
Ça a une certaine importance.
Non.
Laissez-nous décider ce qui est important ou pas.
C'est à moi de décider ce qui est important à communiquer aux auditeurs. Ce sont deux cabinets importants.
Vous êtes là pour répondre aux questions des journalistes, donc faites-nous la grâce de répondre à ces questions.
Nous avons un cabinet qui s'appelle Coffey, nous avons un cabinet qui s'appelle McDonald's. Voilà, ce sont des cabinets australiens et sud-africains qui ont travaillé pendant des mois pour faire une analyse technique objective de ce qu'il fallait faire, les filières qu'il fallait fermer et celles qu'il fallait maintenir. Et nous avons pris aussi, et c'est un nouveau, une assistance technique avec une firme SMP et sud-africaine qui accompagne nos équipes techniques pour mettre en œuvre ce plan.
Que vont devenir les salariés qui vont rester sur le carreau? Est-ce que vous les indemnisez?
Oui, et je crois que c'est ce qui est important. Nous sommes et nous serons la seule entreprise du portefeuille de l'État qui va financer intégralement les départs de ce personnel en respectant intégralement les avantages de la convention collective. Et vous savez, dans le cas de la Gécamines, ces avantages sont assez lourds. Dans les années précédentes, avec l'accompagnement des bailleurs de fonds, la plupart des entreprises publiques donnaient des forfaits pour que les gens partent. Nous allons donner aux travailleurs qui vont partir, soit en retraite anticipée, soit par départ volontaire, le plein des avantages qui sont convenus de la convention collective. Et le premier lot ici, c'est 115 millions de dollars que nous allons décaisser.
Est-ce que ça s'accompagne d'investissements nouveaux?
Ça s'accompagne d'investissements nouveaux à hauteur de 714 millions de dollars.
Et où est-ce que vous allez trouver cet argent?
Ah oui, où est-ce qu'on va trouver cet argent? Le fait qu'on se concentre sur des filières rentables, et je vous dis en récupérant notamment des rejets qui étaient mis à l'écart pour lesquels il n'y a plus de coûts miniers, va générer d'ici à 2020 en trésorerie propre disponible 220 millions de dollars.
Donc il en manque 500 là.
Voilà, il y en a 200 que nous pensons quand les banquiers verront que nous sommes capables, au coût actuel ou au prix actuel des matières premières, de générer des revenus. Je pense qu'ils vont nous accompagner à peu près pour 200 millions. Et nous sommes en discussion avec des partenaires, à la fois à la suite des audits dont nous avons parlé. Il y aura des retours pour la Gécamines et nous avons un gros projet sur des stocks de zinc qui nous appartenaient et sur lesquels nous sommes en train de chercher un partenariat qui devrait nous donner à peu près 300 millions.
Monsieur Yuma, là, vous nous annoncez un plan ambitieux, à la fois de réduction des effectifs, d'investissement important pour relancer la production. Vous avez parlé d'un plan de production, c'est ça?
Un plan de relance de la
production.
Voilà.
Ouais. En fait, il y a 5 ans, vous avez déjà annoncé un plan de relance, dont les termes sont quand même relativement similaires à ce que vous venez de dire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Albert Yuma, c'est un magicien, c'est-à-dire qu'en fait, il fait renaître comme ça de temps en temps les plans de relance. Entre-temps, tout le monde a oublié ce qui avait été promis il y a 5 ans. Donc, déjà, quel bilan vous faites de ce plan depuis 5 ans, sachant qu'en général, quand on parle aux spécialistes, le bilan n'est pas très positif en termes de production. Par exemple, la Gécamines est toujours dans une situation défavorable et en termes financiers aussi. Donc, est-ce que finalement, ce nouveau plan, c'est pas juste un tour de magie d'Albert Yuma?
Un tour de passe-passe.
Pas du tout. Je pense que vous m'avez pas suivi. C'était peut-être pas focalisé sur la Gécamines, mais je vous disais, quand on parlait de la situation du secteur minier en général, que nous avions hérité, quand on a fait le plan, d'une entreprise qui, à mon avis, aurait dû être liquidée. C'était une entreprise en faillite. L'État s'était engagé. Et c'est ça qui était la branche autre de l'alternative
donc vous
du
dites,
plan.
Vous dites si le précédent plan n'a pas finalement porté autant les fruits que ce que vous souhaitiez, c'est pour cette raison-là, parce que finalement le passif...
Mais bien sûr, c'est la raison essentielle, c'est celui-là, parce que malheureusement...
Oui, mais ce passif, il est toujours là, ce 1,5 milliard. Donc si l'État ne le fait pas, le plan que vous êtes en train de nous annoncer, dans 5 ans, vous reviendrez ici, l'émission, on sera ravis, vous nous direz, ah ben tiens, j'ai un troisième plan de relance...
Non, laissez-moi continuer. Nous pensions que, l'État allait... assurer sa part de ce passif. Et donc, nous pouvions, nous adresser au système bancaire pour nous accompagner. Et effectivement, nous avons vu des banques sud-africaines, des banques internationales, la Banque de développement Afreximbank, la PTE, qui toutes étaient prêtes à nous accompagner, mais à un moment donné, ont demandé la garantie de l'État. Je n'en faisais pas de tapage pour dire qu'on n'a pas eu... Mais ce que vous demandez, c'est ça. On n'a pas eu la garantie de l'État... Et ils n'ont pas eu les appurements de passifs qu'on leur avait annoncés. Mais nous avons préparé l'avenir, je vous l'ai dit, nous avons préparé l'avenir en récupérant des actifs miniers importants qui nous permettent aujourd'hui de réaliser ce que je suis en train de vous dire. Donc ce n'est pas un nouveau plan, ici c'est un plan de production qui reste toujours dans le cadre de ce diagnostic qu'on avait fait à l'époque. Et maintenant, nous avons, un, investi 200 millions pour récupérer un actif minier, 140 millions pour maintenir en vie une entreprise qui aurait dû être mise en faillite, normalement dans un environnement normal. Et nous avons maintenu 12 000 emplois qui n'auraient pas pu être maintenus s'il n'y avait pas cette pression politico-sociale d'environ.
Donc moi, je... Donc la Gécamines a été sauvée d'une certaine manière par ce premier plan, c'est ça ?
Absolument. Moi, je pense que nous avons fait du très bon travail parce que nous n'avons pas croisé... Et nous n'avons pas laissé mourir une entreprise qui était destinée à disparaître. Et donc aujourd'hui, nous avons, je pense, décidé de diminuer les coûts en fermant tout ce qui n'est pas rentable, en accord avec les syndicats, et après avoir présenté ce plan de production et ce plan d'action qui reste toujours dans le cadre du plan stratégique de l'époque, ce n'est pas en dehors de ce plan, en accord avec les syndicats et le gouvernement, on ferme les filières non rentables, donc on réduit les coûts d'exploitation, on accepte qu'on fasse partie de 2500 travailleurs en payant tout de suite les catégories basses, les ouvriers étaient à plein pot, et les cadres sur une période de 3 ans, ils sont tous d'accord, on leur donne des... Les travailleurs de la catégorie basse touchent 100% de leur décompte dès cette année-ci. Les autres, proches des acomptes, sur une période de 3 ans, on liquide leur paiement. On prend des experts techniques qui nous disent qu'on peut récupérer des rejets qu'on jetait pour les remettre dans un cycle sans coût minier. Donc, nous allons avoir une production avec un prix de revient compétitif qui génère de la trésorerie pour qu'on puisse cette fois-ci arriver. Et puis, j'ajoute, dans ce plan, on l'adosse un partenariat nouveau sur les réserves de Désiwa de 5 millions de tonnes où nous allons mettre avec un partenaire chinois un partenariat nouveau où au terme d'une période d'investissement convenu et de production, ils investissent, ils financent une usine de 80 000 tonnes.
Oui, allez-y.
Et puis à terme, elle va passer à 200 000 tonnes et au bout d'une période déterminée, ils sont remboursés, ils sortent et on reste 100% propriétaires des usines et de la mine. Et surtout, nous partageons pratiquement moitié-moitié la sous-traitance, tous les contrats d'approvisionnement et l'obligation d'avoir un doublement du personnel expatrié par des personnels congolais et à terme prendre la gestion totale par des nationaux.
Albert Youma Moulimbi, vous êtes le grand invité de l'économie dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous passons à un autre grand sujet d'actualité qui vous concerne, c'est la société américaine Freeport-McMoRan qui a cédé sa participation dans la mine de Tenke-Fugurime. Un investisseur chinois, Frédéric Maury, une question sur ce sujet.
Donc l'annonce a été faite il y a quelques mois. À l'époque, le gouvernement avait dit ne pas avoir été informé de la vente de cette mine, qui est quand même la principale mine de cuivre de RDC. La Gécamines, qui est actionnaire déjà de cette mine, avait dit aussi ne pas avoir été informée. Et là, cette semaine, on apprend que la Gécamines va faire une contre-offre pour racheter les 56% de Freeport dans cette mine de Tenke. Alors pour que les auditeurs comprennent, on parle quand même de 2 milliards et demi ou 3 milliards de dollars, ce qui est donc à peu près 25 fois le chiffre d'affaires de la Gécamines. Donc comment est-ce que vous allez faire? D'abord, est-ce que vous confirmez en effet faire une offre? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver l'argent pour financer tout cela?
Sur le sujet de Freeport et de la vente projetée de TFM, vous venez de le dire, le directeur général de la société, cette semaine, a expliqué en long et en large ce problème. Vous autres journalistes, vous vous êtes intéressés, que je crois, à la dernière question et à la dernière réponse par rapport à l'offre, mais c'est une interview très longue qui a posé la problématique, les difficultés de ce projet et le point de vue clair de la Gécamines. Le point de vue de la Gécamines est connu de tous, vous l'avez lu, et donc ce point de vue devrait être respecté.
Rappelez-nous en deux mots ce point de vue.
Ce point de vue, c'est que les droits de la Gécamines ne peuvent pas être bafoués, ni ceux de l'État, et ne le seront pas. C'est ça le point de vue.
Et donc l'offre ?
Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que nous avons peut-être lu cette interview, mais tous les auditeurs qui par millions nous écoutent, probablement pas.
Je répète, M. Maury l'a dit, l'annonce a été faite sans que ni l'État ni Gécamines aient été informés. Depuis lors, l'État, c'est-à-dire les ministères concernés des mines et du portefeuille AGECAMINE, de concert au fur et à mesure de l'évolution des informations que nous avions, nous avons une position cohérente et commune par rapport au respect des droits de l'État et de l'AGECAMINE. C'est ça la position. Mais nous avons compris également, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, que Freeport effectivement a des besoins de trésorerie et veut sortir. Et ce que AGECAMINE a dit, et je crois le DG l'a dit, il y a des possibilités effectivement pour que ces problèmes de trésorerie soient rencontrés, mais dans le respect strict des droits de l'État et de l'AGECAMINE. C'est là ce que ça veut dire. Et je pense.
Donc vous faites, excusez-moi, je repose ma question, parce que vous faites une offre ou pas?
Mais écoutez, TFM est un actif majeur de classe mondiale qui génère des revenus suffisants pour justifier que n'importe quel investisseur trouve les moyens d'y s'y intéresser. Donc je crois que le problème financier n'est pas le problème. Le problème est important.
Pourquoi vous ne voulez pas répondre à la question? Non, l'AGECAMINE a fait une offre ou va faire une offre pour acheter les parts de Tenke, oui ou non?
Vous ne comprenez pas que le vrai problème, c'est le respect des droits de l'AGECAMINE et de l'État, et c'est le vrai problème dont j'ai parlé.
Ça, c'est le vrai problème, et ma question, c'est est-ce que vous allez faire une offre, oui ou non? Puisque
dans la mesure
ça,
où
ça a été repris partout cette semaine.
Laissez-moi parler. On a repris une question sur cinq. Je ne trouve pas que ce soit la question la plus importante, je regrette.
D'accord.
Moi, je vous dis ce qui est important pour l'AGECAMINE, pour l'État congolais.
C'est le respect des droits, oui.
Et même pour l'ensemble des pays africains, ce que les ressources naturelles d'un pays doivent être gérées dans l'intérêt du pays, des entreprises locales participantes, et aucune décision ne peut être prise sur ces actifs comme si c'était des ovnis, étaient des produits spéculatifs qu'on peut s'échanger à l'étranger sans l'accord du pays et des partenaires. C'est la position fondamentale.
Ça, c'est une position parfaitement recevable, qui est politique. Mais
elle n'est pas politique, elle est économique. Parce que c'est les retombées économiques qui justifient qu'on respecte les droits.
Mais sur le plan financier, M. Youma Moulimbi, vous êtes un financier, vous connaissez parfaitement toutes ces questions-là. Comment une entreprise comme la AGECAMINE, qui a 150 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, peut-elle mettre sur la table autant que ce que Freeport réclamait aux Chinois, c'est-à-dire 2,5 milliards de dollars?
C'est très simple. C'est la valeur de l'actif qui justifie les capacités de lever le fonds. C'est un actif de classe mondiale qui a des revenus, ça sera très facile de lever le fonds. Si, le moment venu, on n'a pas trouvé une solution à ce que j'ai dit au départ, le respect des droits de la AGECAMINE et de l'État.
Donc, en fait, moi, j'essaye de traduire ce que vous dites parce que vous ne répondez pas vraiment aux questions. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, votre DG s'est un peu emballé. Il a lancé ça en l'air.
Je ne vous autorise pas à dire ça. A dit ce qu'il devait dire et les cinq questions, il les a répondues avec précision.
Donc, vous confirmez qu'il y a une offre qui est faite?
Je confirme tout ce qu'il a dit parce que ce qu'il a dit, c'est l'expression des options du conseil d'administration de la AGECAMINE. Il ne s'est pas emballé.
C'est une option.
Il a dit toute la vérité, rien que la vérité sur ce projet, qui est un projet majeur pour la RDC, et on ne peut pas traiter ce sujet comme un actif spéculatif dont on peut se débarrasser au gré du vent.
Est-ce que vous avez déjà réuni des financiers pour ce projet, ou est-ce que finalement, là, vous avez lancé un ballon et vous attendez que des financiers viennent vous voir pour vous apporter cet argent qui vous est nécessaire pour acheter
Je ne suis pas du genre à lancer des ballons sans savoir où je vais.
Le Premier ministre Mapon Matata Ponyo était notre invité au début du mois de juin dernier. Il critiquait violemment votre gestion et l'absence de progrès de la transparence à l'AGECAMINE. On écoute Mapon Matata Ponyo.
La production de l'AGECAMINE est toujours au bas de l'échelle. Ça veut dire que les réformes, même si elles sont accomplies, elles n'ont pas encore atteint les niveaux voulus. Il y a aussi le problème de la gouvernance de l'AGECAMINE, vous le savez. Sur base de ces déficits de gouvernance, le chef de l'État, le président Kabila, avait été amené à pouvoir donc révoquer le directeur général donc de l'AGECAMINE. Et je crois qu'il faut absolument que les réformes qui sont implémentées dans cette entreprise bénéficient de la gouvernance. Le leadership et la gouvernance constituent les facteurs clés du progrès. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes des individus, mais il y a plutôt le problème de l'appréciation, de la gestion. Nous sommes, nous, d'avis qu'il y a un déficit de gouvernance dans la gestion de l'AGECAMINE et qui a notamment été sanctionné par la révocation du directeur général.
Mais la révocation, elle est ancienne maintenant. Vous parlez de quelque chose qui date de plus d'un an maintenant.
Herbert Youma est aux manettes depuis un bout de temps. La gouvernance n'aurait pas progressé?
Bon, écoutez, nous l'avons constaté, et lorsqu'on vous parle du déficit de gouvernance dans la GECAMINE, bon, c'est un déficit qui n'est pas des 10 ans, et c'est un déficit actuel.
C'était donc le Premier ministre Mapon Matata Ponyo. Qu'est-ce que vous lui répondez, Albert Yuma ?
Je n'ai pas à répondre au Premier ministre.
Vous êtes quand même singulièrement mis en cause.
Oh, vous savez, dans la vie, il faut savoir la vérité soi-même et avoir sa conscience pour soi. Je vous l'ai dit ici tout à l'heure, chez GECAMINE, quand j'ai été nommé, était une entreprise en faillite qu'il fallait liquider. Et le diagnostic de cette situation de la GECAMINE avait été présenté en présence notamment du Premier ministre. Donc il connaissait très bien l'état de la GECAMINE et je pense que c'était un défi que j'ai accepté. C'était un mandat qui m'avait été confié par le chef de l'État pour redresser une entreprise. Quand on est arrivé, elle avait une production inférieure à 10 000 tonnes. Alors quand on parle d'un déficit récent...
Aujourd'hui, vous êtes à environ 50 000 tonnes ?
Non. Aujourd'hui, nous serons cette année-ci à près de 25 000 tonnes, l'année prochaine à 75 000 tonnes et en 2018 à 100 000 tonnes. Voici ce que nous avons préparé pendant toutes ces années. Quand on parle de gouvernance, on ne sait pas de quoi on parle. La GECAMINE est la seule entreprise du portefeuille de l'État qui a des comptes audités et certifiés. C'est la seule. La GECAMINE a été citée en exemple comme la seule entreprise qui s'est adaptée au plan nouveau comptable OADA, la première. La GECAMINE a eu une seule réserve dans la certification, c'est par rapport à ce que l'État nous doit comme argent. Voilà la vraie réalité de la gouvernance. Il ne faut pas parler de gouvernance quand on ne sait pas de quoi on parle, et surtout que l'Assemblée générale de la GECAMINE, qui se tient, a en son sein les représentants du ministère du portefeuille, qui dirige l'Assemblée générale, ministère des mines, de la primature et du ministère du budget. Et chaque année, des recommandations sont faites par cette Assemblée générale à l'encontre vis-à-vis de l'État. Donc je suis très confortable quant à la gouvernance de la GECAMINE. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en RDC, c'est l'entreprise du portefeuille qui est la plus transparente et la mieux gérée, et l'information est connue de tous.
Frédéric Maury.
Il y a quelques années, d'ailleurs il y a 3 ans, quand vous étiez déjà venu dans cette émission, on en avait beaucoup parlé. La polémique était forte autour des actifs cédés à Dan Gertler. Et c'est ça aussi sans doute qui a entretenu cette réputation de mauvaise gouvernance au sein de la GECAMINE. Il y avait eu une brouille avec les bailleurs de fonds à l'époque. Je crois que ça va un peu mieux. Mais enfin, il y avait eu des engagements de la part de la GECAMINE et du Congo de publier, d'être transparent sur les contrats miniers, de publier les deals, enfin les détails des cessions, etc. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est fait et pratiqué?
Mais c'est fait. Même à l'époque, c'était fait. Et je pense que ce fameux différend qu'on avait monté en épingle était un faux différend. D'abord, c'était un dossier qui avait été initié avant que je n'arrive. Donc, je ne me sentais pas concerné. Mais depuis lors, et je peux vous dire ici, s'il y a des cessions d'actifs qui ont été faites, c'est dans toute transparence, et c'est grâce à ces cessions d'actifs qu'on a pallié à l'insuffisance que l'État actionnaire n'a pas mis l'argent qu'il devait mettre. Donc, je suis très à l'aise avec ces transactions. Ça a permis de sauver la vie de cette entreprise et 12 000 familles. Voilà ce que je dis aujourd'hui, et je reste très à l'aise par rapport à ça.
On a de plus en plus l'impression que le cuivre de RDC est aux mains des entreprises chinoises. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ?
Je ne suis pas à l'aise avec tous les partenariats qui ont été conclus depuis 2000. Je viens de vous le dire, nous avons lancé des audits parce que nous ne sommes pas satisfaits. Et l'objectif que nous poursuivons, avec l'accompagnement du gouvernement qui est au courant de tous nos plans d'action et qui est informé, c'est de reprendre en propre la gestion du secteur minier et de refaire la GECAMINE, le vrai opérateur, pour que ça bénéficie réellement à l'économie de la province, aux populations et à l'ensemble du pays. C'est ça l'objectif. On ne peut pas se satisfaire que notre secteur minier soit entre les mains 100% de l'étranger. Ce n'est pas acceptable, c'est ce que nous devons et nous allons changer.
Mais vous parlez d'une renationalisation du cuivre congolais. Mais comment faire financièrement ?
Regardez, je vous ai parlé que nous avons signé un partenariat qui est publié avec une entreprise chinoise, CNMC. Ce partenariat dit quoi ? Nous faisons une entreprise sur base des réserves de Déziwa, 5 millions de tonnes, qui peut produire jusqu'à 200 000 tonnes à terme. 51% au départ pour les Chinois, 49% au départ pour Gécamines, mais au bout d'une période déterminée, ils quittent l'entreprise et Gécamines reste 100% propriétaire avec suffisamment de réserves pour continuer à exploiter seul. Nous nous partageons les flux financiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire la sous-traitance, les approvisionnements, la commercialisation, ce qui n'est pas le cas dans aucun des partenariats aujourd'hui, ce que nous ne voulons plus désormais faire. Que ce soit les Chinois ou n'importe quel autre investisseur étranger, ce type de partenariat passé où le minoritaire attend des dividendes qui ne viennent jamais, on n'en fera plus, ni avec des Chinois, ni avec quelqu'un d'autre.
Dernière question de Frédéric Maury.
Une dernière question qui n'a absolument plus rien à voir avec les mines. Mais bon, on a parlé d'Albert Yuma, patron des patrons, Albert Yuma, ses actifs personnels, Albert Yuma, patron de la Gécamines, longuement. Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un Albert Yuma politique aussi, puisque voilà, vous avez beaucoup de responsabilités. Donc, est-ce que vous allez rentrer en politique? Est-ce que vous allez jouer un rôle dans les élections qui viennent? Et lequel?
Jamais, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, je n'entrerai en politique. Ce n'est pas ma tasse de thé, ça ne m'a jamais intéressé, je suis un homme d'affaires.
C'est le mot de la fin, merci Albert Yuma Moulimi d'avoir été le grand invité de l'économie de cette émission. Vous pouvez retrouver les meilleurs passages dans les colonnes de Jeune Afrique, dans l'édition qui sort ces heures-ci, et puis sur les sites internet d'RFI et de Jeune Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.